Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et ravi de vous retrouver en pleine tempête à Paris. La phase aller des matchs de poule de la Ligue des Champions s'est achevée hier. Pluie de buts sur les terrains, enfin presque. Pour une fois, le nord de la France est resté bien au sec. Lille en manque de souffle, alors que d'autres petits poussés secouent les ogres sur le vieux continent cette saison. Shérif, fais-moi peur, le club moldave de Tiraspol qui fait la loi dans le groupe du Real, une pierre jetée dans le jardin de la Maison Blanche et de sa Super League. Je vous parlais de tempête, un ouragan menace la planète football depuis quelques mois. Le président de la FIFA pousse pour l'organisation d'une Coupe du Monde tous les deux ans, quitte à alterner les équipes participantes. Et oui, Gianni Infantino ose tout et c'est peut-être à cela qu'on le reconnaît. Et puis en France, le procès de l'affaire dite de la sextape, la vidéo intime de Mathieu Valbuena, affaire peu glorieuse qui met en lumière les zones d'ombre de la vie des vedettes, du ballon rond, millions, adulation, mauvaise fréquentation, un drôle de tourbillon. C'était plus calme à votre époque, Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour à tous, oui.
Un peu plus calme.
Oui, on va franchement dire ça comme ça. C'était le paradis.
Les mauvais entourages de footballeurs, c'est un grand
Moi,
sujet qu'on va aborder tout à l'heure.
C'est un gros problème.
Un gros problème dont on parlera tout à l'heure. Heureusement, Carlos, je vous rassure, aujourd'hui vous êtes très bien entouré avec Jean-Philippe Bouchard
bien
à
sûr.
Votre gauche. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et Franck Simon en face de vous, un gardien qui fait face à un attaquant.
Je tremble.
Ça c'est le football qu'on aime. Bonjour Franck.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Tourbillon également dans les coulisses de Radio Foot. Qu'ils vendent, qu'ils pleuvent, ils tiennent bon. David Schinzel, Pierre-Olivier Guérin et le maestro Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
Et la Pavelka, s'il vous plaît, messieurs dames, Léo Messi et le Paris Saint-Germain, un quart d'heure de la fin, mettent maintenant 3-2.
C'est terminé au Wanda Metropolitano, un succès épique de Liverpool, 3-2, un grand match.
Un Bayern Munich, une nouvelle fois intraitable, mais qui aura souffert aujourd'hui, victoire 4-0 avec un doublé de Leroy Sané.
Nouvelle victoire, la troisième en trois matchs pour la Juve, troisième victoire sans prendre de but toujours.
5-1 pour Manchester City.
En mode Ligue des Champions.
La Ligue des Champions.
La Ligue des Champions.
La Ligue des Champions.
À l'heure Ligue des Champions, en mode Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, le premier tour à mi-parcours. Pratiquement tous les ténors sont au rendez-vous après trois journées. Seuls les deux Milan et le Barça, voire Porto, ne pointent pas à l'une des deux premières places de leur groupe respectif. Et donc pour l'instant, ne sont pas en position de se qualifier pour les huitièmes de finale. Les deux Milan, le Barça, voire Porto, ces clubs font-ils encore partie du gratin? On peut peut-être commencer par cette question. Est-ce qu'on les attendait forcément là, ces clubs, Jean-Philippe Bouchard?
On a dit beaucoup de mal de Barcelone il y a quelque temps.
Exactement.
Dans cette
exactement,
émission.
Dans ce même studio.
Après, ça reste, c'est un chef-d'œuvre en péril, mais il reste quand même quelques fondamentaux dans cette équipe. Donc, on peut dire que dans son groupe, il a pas forcément son destin en main. Mais il y a des chances quand même qu'ils puissent quand même sauver la saison et arriver au moins en huitième.
Donc Barça,
pour
l'instant,
c'est pas fini.
Le Barça n'est pas dans ses temps de passage
habituel, ça c'est sûr.
À l'instar de l'Inter Milan, troisième du groupe du Real et du Sheriff Tiraspol, dont on parlera tout à l'heure. Ça aussi, c'est peut-être l'un des flops, on va dire, de cette première partie de premier tour de la Ligue des Champions, Franck Simon.
C'en est un. On l'attendait un petit peu. On savait qu'il y a des départs importants du côté de l'Inter, mais c'est la même chose hein, du côté du Milan AC, parce qu'il ne faut pas oublier que ça faisait combien 7 ans qu'ils n'étaient pas revenus dans la compétition.
Alors eux, c'est zéro pointé.
Oui, c'est un zéro pointé.
Retour difficile.
Tu as beau avoir un effectif, quand tu ne fais pas déjà la loi, je dirais, chez toi, c'est compliqué de la faire en dehors. Mais pour l'Inter, ils sont un petit peu dans un scénario qui n'est pas sans rappeler la saison dernière. Même s'ils s'étaient fait éliminer en bout de parcours, ils avaient leur chance. L'Inter interroge, pose question depuis le début.
Mais l'Inter, comme le Barça,
reste.
Et reste sur une victoire.
Ouais.
Cette Encore semaine, donc ça s'est un petit peu rattrapé du côté de ces deux chefs-d'œuvre en péril, pour reprendre l'expression de Jean-Philippe Bouchard. Voilà pour les élèves moyens, les mauvais élèves. On va parler de ceux qui, pour l'instant, vont très bien, ceux qui ont fait carton plein, Carlos Bianchi, Bayern, Liverpool, Juventus, trois historiques qui.
Et à la fin, ils sont toujours là.
Voilà.
Et à la fin, ils sont toujours là.
Ça, c'est la règle. On les attend. Ils sont là. Ils sont
Liverpool,
présents.
Liverpool, il y avait un match très difficile parce que s'il y a un adversaire que personne ne veut trouver, c'est Atlético Madrid. Ah, oui. C'est une équipe très casse-pied, très gênante.
Un match, c'était un match digne d'une demi-finale ou d'une finale.
C'est vrai,
c'était d'une intensité.
Sauf qu'au final, Liverpool l'emporte 3-2 grâce à ses Africains, celle-là et
mais je pense que Barcelone, encore, attention, hein, Barcelone, il a gagné un match de 3. Hein. Il va jouer chez Dynamo, là. Hein. S'il ne gagne pas, je crois qu'il reste.
Oui, ils n'ont plus leur destin en main. Il faut vraiment qu'ils fassent
carton
plein sur les
matchs retour.
Attention,
ce n'est pas facile pour Barcelone. Hein.
Mais on le sait depuis le début que Barcelone fait un début de saison catastrophique. Ça, c'est,
ils sont dans la continuité de ce qu'ils vivent.
Voilà,
aussi,
donc
sur
là,
la
ça va un peu mieux depuis une quinzaine de jours pour le Barça. Ils entrevoient la lumière, mais ils ne se sont pas tirés d'affaire.
Je reviens sur Liverpool. C'est parmi les équipes au rendez-vous sur cette Ligue des Champions, c'est celle qui vous a le plus impressionné.
Et le Bayern.
Avec le Bayern, pour l'instant, ce sont les deux équipes qui se détachent. On est vraiment d'accord là-dessus.
Les deux sont dans la continuité de l'année dernière. Le Bayern, très impressionnant. Et en plus, c'est d'autant plus impressionnant qu'ils sont les deux dans des groupes difficiles. Parce que les groupes sont assez inégaux quand même. Il y a des groupes beaucoup plus faciles que d'autres. Et par exemple, le groupe de Lille, on en parlera tout à l'heure, mais qui est quand même pas du tout du même niveau que celui
de Liverpool. Alors, je rappelle celui du Bayern, donc avec Benfica, Barcelone, donc qui est troisième. Hein. Le Bayern l'avait emporté 3-0 contre les Blaugrana et le Dynamo de Kiev. C'est toujours ça quand même, le Dynamo de Kiev, on l'oublie. Et vous me parliez également de Liverpool, Atlético Madrid, Porto, Milan. C'était l'un des groupes, entre guillemets, l'un des plus équilibrés. Donc, ça montre bien le niveau de performance du Bayern, de Liverpool. En même temps, là, je vous cite le champion d'Europe 2020 et le champion d'Europe 2019. Donc, on n'est pas tout à fait surpris de les retrouver au rendez-vous, Franck Simon.
Non. Alors, pour eux, on n'est pas surpris. Mais il y a une équipe que vous avez oublié d'évoquer pour l'instant. Peut-être que on va le faire. En tout cas, moi, je me permets de le faire. C'est l'Ajax d'Amsterdam. Alors, effectivement, ils sont pas dans le groupe le plus relevé. Mais enfin, c'est pas mal.
Hier, c'est quand même merci. Très fort.
Très fort. Vous voulez qu'on parle de l'Ajax?
Parce que Dortmund, c'est quand même pas une petite équipe.
Exactement. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de l'Ajax?
Mais c'est bizarre.
Attendez. Je vous fais écouter quelque chose et puis pour qu'on se mette dans l'ambiance d'Amsterdam, voilà. Parce que vous connaissez quartier rouge, Amsterdam, certaines légalisations, certaines législations. Voilà, il faut se mettre dans une certaine ambiance quand on part du côté d'Amsterdam. Ieder praatse op de honden. Wie gaat niet op Ajax brood? Non, c'est pas Jacques Brel. Je vois votre moue dubitative, mon cher Carlos Bianchi. Vous êtes un homme de goût. Ce n'est pas Jacques Brel, mais c'est un hymne, l'hymne de l'Ajax Amsterdam, apparemment.
Je m'en souvenais pas.
C'est assez, c'est d'époque, on va dire.
Oui, c'est assez daté quand même.
Ce qui nous rappelle que l'Ajax, c'est un petit poussé entre guillemets aujourd'hui, mais c'est un club qui compte
vous êtes dur,
dans son armoire 4 coupes aux grandes oreilles. C'est un club mythique, historique, et c'est l'un des clubs qui cette saison, après 3 journées de Ligue des Champions, a fait le plein. 3 matchs, 3 victoires, et la dernière 4.
Hier c'était un match bizarre.
4-0 contre Dortmund. Voilà,
oui, mais Dortmund, ça fait déjà quelques années qu'un champion, il fait pas grand chose.
Ils ont fait dernier carré il n'y a pas si longtemps.
Ouais,
ils ont inquiété le PSG il y a deux ans. En tout cas, c'est un
ce n'est pas l'équipe qui était champion d'Europe.
Non, mais ils sont deuxième de leur poule, donc c'est quand même une performance.
Sa mère, c'était, non?
Là, c'était un peu
en 97.
C'était un peu une sorte de.
Ils sont premiers. Première
manche de la finale de ce groupe-là. Le fait que l'Ajax écrase ce match est quand même.
C'est pas anodin.
Ils sont dans la continuité de ce qu'ils font depuis plusieurs années, d'ailleurs, l'Ajax.
Avec une qualité dans le jeu.
Avec cette particularité que c'est un club qui est bien géré, qui est sain économiquement, financièrement, qui a son stade. Et dans la crise actuelle pour le foot mondial et européen, finalement, eux, ils sont sur leur base, sur leurs fondamentaux, et ça marche, quoi.
Petite parenthèse, l'Ajax qui compte dans ses rangs le meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Un avant-centre ivoirien, je vous laisse prendre la suite.
Il s'agit de monsieur Allaire. Et pour corroborer ce que disait Jean-Philippe à l'instant, c'est-à-dire qu'ils sont capables, à un moment donné, d'aller chercher des joueurs qui performaient pas forcément bien en première ligue. C'est le cas de Allaire.
De Allaire, ouais.
Voilà. Donc, ils peuvent récupérer de très bons éléments.
Tadic,
oui,
également.
Aussi. Et proposer un football toujours attrayant, un football avec toujours plus de jeunes, parce que l'ADN, Carlos, ils ne l'ont pas perdu.
Non, ils ne l'ont pas perdu.
C'est toujours là.
Ils sont toujours
là. Et ça joue. Après, je suis d'accord que peut-être ils vont plafonner, peut-être au niveau de 8e quart.
Et le leitmotiv de Ajax, c'est les joueurs du cru, surtout. Oui. Et la façon de jouer. Change l'entraîneur, change les entraîneurs, mais tout le monde, il faut qu'il.
Les jeunes jusqu'à l'équipe première.
Il y a une
continuité qui nous ramène à votre, ne le prenez pas mal, mais à votre époque, Carlos Bianchi, l'Ajax, c'est quand même le grand club, l'un des grands clubs des années 70. Oui. Ça vous fait plaisir de, que ce lien footballistique, ce lien du jeu ne se soit pas rompu?
L'Ajax, c'était 69, 70, 71. Parce qu'après, il est venu le TRC des Bayern de Munich.
Exactement.
Je crois que c'était un peu plus tard. Il y a déjà le Feyenoord, et puis ensuite, il y a trois.
Il y a trois des Bayern.
Trois de l'Ajax, et puis après, trois du Bayern.
Ouais. Mais à cette époque-là, la plupart des joueurs, c'était du cru.
Bien sûr.
C'était extraordinaire.
Il n'y a pas de
mais ils ont maintenu l'équipe pendant 5-6 ans. Après, quand ils ont commencé à vendre, qu'il est parti Kroll à Naples, qu'il est parti Cruyff à Barcelone et tout ça.
Johnny Rep qui part
Johnny
ensuite.
Rep à Bastia et Bastia à Saint-Etienne. Bon, après, bon, c'était fini. Mais je pense que c'est un petit peu... Moi, j'ai beaucoup aimé l'époque d'Auxerre. Je vous dis la vérité. Parce qu'un jour, je ne sais pas comment ça se fait, je me suis mis à regarder jouer une équipe de 10 ans d'Auxerre. Ils jouaient pareil que la première division.
En 4-3-3, pareil.
On parle d'Auxerre en France.
Auxerre et non, mais non, parce que pour la...
Et vous faites Ajax, le lien avec l'Ajax
et Ajax, c'est pareil. Le système de jeu, ça ne changeait jamais.
Oui, mais là... Mais les grandes écoles de football, il y a eu le FC Nantes, comme ça, où toutes les équipes du club,
des
poussins
de
jusqu'aux pros, jouaient exactement avec le même système.
Et ça, et Ajax, avec, c'est ça. C'est une culture.
Avec il y a un petit défaut à ça, c'est que c'est souvent des équipes qui... peuvent bien fonctionner, mais les joueurs s'exportent moins bien.
Ouais, ils ont du mal de sortir de système qui leur a été inculqué depuis leur plus jeune âge. Ils ont moins de souplesse.
Alors voilà, un vrai bon point, tout simplement, pour l'Ajax Amsterdam. Donc il y a un faux petit poussé, si je puis dire.
C'est bien de
mais
corriger
qu'on
comme
va
ça.
Quand même mettre dans le même sac toutes ces équipes dont on n'attend pas forcément. Voilà, les outsiders, c'est un mot anglais, mais on va quand même l'utiliser. Allez. Et je voulais également parler, donc évidemment, du Sheriff Tiraspol. Là, c'est vraiment la grande sensation qui est en tête de son groupe devant le Real Madrid et qui est même allé battre le Real au stade Santiago Bernabéu. On va saluer également la première place de Salzbourg, le club autrichien, ou encore les bonnes prestations de Villarreal et l'Atalanta dans le groupe de Manchester United, ou encore de Bruges, bon, qui n'est que troisième, et dans le groupe du PSG de Manchester City. Ce qui est intéressant avec toutes ces bonnes performances, c'est qu'on voit qu'au-delà du fait que les grands, on en parlait tout à l'heure, sont au rendez-vous, à peu près tous, sauf éventuellement le Barça et l'Inter Milan, il y a une sorte de deuxième division européenne qui est agréable à voir jouer, qui produit de belles performances et qui prouve que le football européen, le haut niveau européen ne se limite pas aux historiques. Et quand on pense qu'il y a quelques mois, certains voulaient créer la Super League, c'est intéressant.
Très précaire et qui n'a pas beaucoup de moyens, c'était Villarreal. Villarreal était champion de la UEFA.
Oui, contre Manchester United la saison
dernière. Et ça fait quelques années, il a perdu la demi-finale contre Arsenal de la Champions. Et depuis quelques années, il est toujours là. Il est toujours
là. Une régularité.
La régularité, les championnats espagnols d'abord, parce qu'il se qualifie presque tous les ans pour la UEFA ou la Champions. Et il est toujours là. Hier, ils ont gagné un match à Youmbosh, c'est pas facile.
Plus,
hein,
oui.
Aussi, ils ont gagné 4-1 à l'extérieur.
Alors, Villarreal, Ajax, Bruges, on peut prendre tous ces exemples, Sheriff Tiraspol. Sur cette problématique de l'idée que, à l'heure où on veut créer une élite, ou certains veulent créer une élite très refermée du football européen, le fait qu'il y ait ces clubs qui, avec des moyens plus modestes, parviennent à livrer de belles performances, est-ce que c'est pas une vraie bouffée d'oxygène pour quelqu'un qui aime le football depuis tant d'années comme vous, Franck Simon? C'est un peu démagogue ce que je dis, mais on a envie de se poser la question.
J'ai un regard aussi, je pense qu'on doit le partager tous ici. C'est une formule pool, c'est une formule championnat. Donc des équipes qui ont peut-être un peu moins de moyens, plus joueuses, elles peuvent, sur des adversaires un peu plus faibles ou à valeur égale, faire le travail, éventuellement, comme Sheriff Tiraspol, surprendre un gros. Ça arrive. Les accidents arrivent, c'est un accident positif pour eux. Ce qui est différent, c'est qu'une fois que vous sortez des poules, et là...
Aller-retour.
Et aller-retour. Et vous allez commencer votre match en huitième. pour tomber contre un gros. Les affaires se complient. C'est là que tu vois le niveau réel ou supposé de cette équipe. Mais oui. on est content de les voir. Mais ils vont se faire piller. Toutes ces belles équipes-là vont se faire piller.
La différence économique qu'il y a.
Et on voit la différence.
Ouais, et puis il faut jamais oublier que la compétition, c'est aussi une course d'élimination. Et que, au cours de la saison, les plus petits effectifs vont se fatiguer, vont s'user. Et qu'arriver au printemps, au moment de vérité où il faut finir dans les premières places en championnat et gagner des matchs éliminatoires en 8e.
C'est ce qu'on disait de l'Ajax en 2019.
Voilà. C'est un peu ce qui leur est arrivé. Ils ont fini.
Mais ils sont allés loin quand
même. Ouais, ils sont allés très loin, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ouais. Alors qu'ils offraient un football
ils ont
formidable.
Craqué, malheureusement. Ouais.
Très, très fatigant et avec peu de bancs. Et ils sont cassés les dents. Sur la
mais c'était une super c'était, histoire
voilà,
quand même. Hein,
c'était une belle histoire, mais malheureusement.
Mais quand on est romantique, on n'a pas envie de s'accrocher voilà. Un petit peu à ce genre
évidemment,
de récit, il faut qu'il y ait un nouvel Ajax tous les ans.
Il faut entretenir la flamme, mais si on regarde les demi-finalistes de la Ligue des Champions depuis 20 ans, il n'y a pas beaucoup de.
L'un des arguments des têtes pensantes de la Super Ligue avortée, Florentino Pérez, hein, donc l'homme qui se fait battre par le shérif Tiraspol dans son stade, c'était que la phase de poule, franchement, elle ne servait pas à grand-chose, elle était un peu ennuyeuse.
Pourquoi multiplier alors un si grand nombre de matchs entre eux ? Ça ne sert à rien. Proposer une formule championnat, c'était un peu.
Est-ce que cette phase de poule, là, qui en est à mi-chemin, la phase de poule actuelle, est-ce qu'elle offre une belle publicité, une belle réponse éventuellement à ceux qui trouvent que bon, c'est pas très intéressant et finalement qui pensent comme vous, qu'au final, on retrouvera toujours les mêmes.
Je crois que la formule, moi, ça me plaît.
Oui. Il y a les buts, il y a les matchs. Après, dans les dernières journées, là, 5e, 6e journée, bon, il y aura les qualifiés, mais après, sans doute, ça sera peut-être moins attractif. Il y aura peut-être plus de compétition, il y aura encore des places à jouer et peut-être que ça va perdre.
Oui, en plus, il y a une autre donnée, c'est pour les grosses équipes qui ont que des internationaux. On va entrer dans une période hivernale où les matchs internationaux vont s'arrêter. Et ils auront encore plus de jus pour faire la différence aussi sur les matchs retour de Ligue des Champions.
Il semble quand même qu'il y a une CAN qui va arriver. Mais bon, c'est pour après la.
Début janvier, mais ça vient vite.
Pas de chance pour Liverpool. Mais
je pense qu'un club qui joue du côté du nord de l'Angleterre.
Tu perds des joueurs importants là.
Mais ça va quand même profiter quand même au plus gros. C'est toujours pareil. C'est les gros effectifs.
Ils ne sont pas qu'une équipe. Le moins faible de tous les gros, il a une équipe et demie. Il y a des équipes qui sont deux. Ouais. Quand vous voyez Paris Saint-Germain, il y a deux équipes. Il n'y a pas une équipe.
Ouais. Mais est-ce que c'est les moyens. On en revient à ce que tu disais, Carlos.
C'est la moyenne économique. Ouais, à la fin, ça finit pour être... sauf un miracle.
Mais donc on a un peu envie de supporter David contre Goliath. On a envie que les petits continuent à s'accrocher pour qu'il y ait du spectacle.
Ça t'a fait plaisir, mais c'est difficile. Et le miracle, ça arrive pas très souvent.
La force reste quand même.
Et si on parlait des deux représentants français, messieurs, donc le PSG, on en parle juste après. D'abord un mot sur Lille. On a débriefé, on a vécu le match nul 0-0 contre Séville sur l'antenne de RFI. On va peut-être pas revenir sur ce match en tant que tel, mais plutôt sur le parcours de Lille. On parlait de ces clubs aux moyens limités, mais qui, par des idées, un esprit, voire un ADN dans le cadre de l'Ajax, peuvent essayer de lutter, pas armes égales, mais faire jeu égal, au moins, sur un ou deux matchs avec les gros. Et Lille, il y a toujours un peu ce blocage qui dure depuis pas mal de campagnes de Ligue des Champions pour Lille, les Dogs. C'est une petite déception, même s'ils sont encore dans la course.
Lille, en Ligue des Champions, ils n'ont jamais rien fait. Donc, ça, c'est pas une nouveauté.
En termes d'ADN, c'est limité, effectivement.
Voilà. Après, ce qui est ennuyeux, c'est qu'ils sont dans un groupe qui est largement à leur portée, que les matchs qu'ils ont disputés étaient à leur portée, et qu'ils n'arrivent pas à émerger. Donc ça c'est ennuyeux parce que franchement ils seraient en tête de ce groupe. Il y a rien à dire.
Salzbourg et Séville qui sont en tête.
Tout le groupe c'est un des plus faibles.
Mais oui. Ça aurait été vraiment. Enfin c'était à leur portée. Or là ils se retrouvent en troisième place.
Et là, ils vont à Séville.
À devoir cravacher derrière.
On a l'impression qu'ils ont du mal à se lâcher alors que.
Comme en championnat.
Est-ce
que vous avez l'impression? Je suis d'accord avec vous, mais vous avez l'impression que cette équipe se lâche en championnat. C'est une équipe depuis qu'elle a été sacrée. Franchement, qu'est-ce qu'elle a fait elle aussi quelque part pour un petit peu rappeler ce qu'on disait sur le Barça. Elle aussi est dans la difficulté. Voilà. Un coup, ils font un petit résultat. Un coup, ils repiquent.
Oui, mais la question, c'est que peut-être qu'ils sont arrivés juste pour être champions. Et là, ils sont essoufflés. Ils ne sont pas récupérés encore. Attention, hein.
Ils ont aussi changé d'entraîneur.
Il y a une vraie rupture, non, effectivement.
Ils dépendent beaucoup aussi de la forme de Ilmaz aussi, d'un match à l'autre. Hein. Ils sont très Ilmaz dépendants quand même.
il est plutôt jeune en plus, le Turc. Donc,
ce qui est un peu dommage, c'est que le football français, une nouvelle fois, en Ligue des Champions,
ça se limite au PSG.
Il ne fait pas le poids.
Sur le Paris Saint-Germain, oui, mais enfin, quand vous voyez un club moldave tenir la dragée haute au Real Madrid, vous dites que Lille, c'est un peu dommage. Bon, le PSG au rendez-vous, 7 points, accroché quand même par soi-disant un petit Bruges d'entrée, puis derrière, il est parvenu à bien se ressaisir, mais avec une marge.
Ce match-là, ça va déranger. Match nul, ça va lui déranger à Paris Saint-Germain. Parce que...
Ah oui, le match nul en ouverture contre Bruges.
Ouais, ça va peser. Là, ils vont jouer à Manchester, ça ne va pas. Manchester, il est capable de gagner les deux matchs qui restent à l'extérieur et tranquillement.
D'accord, donc
il a démontré là contre Bruges. Ils vont finir deuxième. Et après, quand tu finis deuxième.
Sur les gros dont on parlait.
Non, mais c'est pas du tout fait encore parce que là, il y a le retour contre la
Ligue. À Manchester,
ça
n'a
pas été une partie de plaisir, la victoire de.
Il faut aller en Allemagne.
Mardi. Il faut. C'est le plus. La finale pour le PSG, elle est là. Parce qu'on peut imaginer qu'ils battront Bruges finalement, mais City, c'est pas du tout dit qu'ils battent City en Angleterre. Donc le vrai match couperet. C'est le prochain contre Leipzig.
On parlait des gros qui faisaient le job, pour le dire familièrement, en début d'émission. Et pour refermer cette page Ligue des Champions, on va parler du PSG, qui est peut-être l'un des gros les moins convaincants, vous diriez ça comme ça. Mais il est quand même devant Manchester City, qui est
concours de circonstances très favorables. Pour le PSG.
Parce que la dernière victoire 3-2 contre Leipzig, la marge était faible. City, ça passe, mais c'était
ça passe de peu, ce qui est normal. C'était un beau match.
C'était limité, mais c'était un beau match
et maîtrisé. Ouais. C'est le plus beau match du PSG
depuis
le début de saison.
Quels sont les enseignements à tenir de cette première partie de phase de poule?
PSG est encore en rodage.
La question, Carlos Bianchi. Il lui dit que le match prochain là-bas à Leipzig, c'est la finale. Pour moi, c'est la finale.
C'est quoi les problèmes du PSG, Carlos? Si vous étiez...
pas donner des conseils.
Si Mauricio prenait la porte et que vous...
C'est fini l'entraîneur. C'est fini.
Sa place.
Moi, je ne travaille plus comme entraîneur. Mais la question, c'est que vous avez trois attaquants. Les trois attaquants, ça vous donne l'obligation presque, sont des premiers niveaux, de les faire jouer tout le temps, quand ils sont là. Et alors, après, il faut trouver trois milieux de terrain. Attention que vous trouvez trois attaquants ici qui ne sont pas l'esprit de sacrifice qui sont les trois attaquants de pointe de Liverpool.
Liverpool,
il a très grands attaquants, Salah, Firmino et Sané, et quand il faut qu'ils fassent le boulot sale, ils sont là.
Ah, ça, c'est très
par
bien
contre,
de le rappeler.
Vous ne pouvez pas les demander à Messi qu'il fasse le boulot défensif. Oui. Mbappé, il n'a pas l'habitude, il peut venir à faire une course 40 mètres, mais ce n'est pas,
pas
naturel.
Le temps,
voilà. Et Neymar, vous n'allez pas lui dire, écoute, il faut que tu prennes les demi-défensifs.
Quand il est là.
Bon, ça, c'est autre chose.
La lueur d'espoir, entre guillemets, pour le PSG, en tout cas un vrai motif de satisfaction, c'est que Messi, qui ne fait pas des débuts tonitruants sous ses nouvelles couleurs, il est au rendez-vous en Ligue des Champions. C'est là qu'il marque et c'est quelque part là qu'on l'attend. Personne n'attend qu'il soit meilleur buteur de Ligue 1. C'est complètement anecdotique, Franck Simon, mais il doit être décisif en Ligue des Champions. Et quand le PSG n'est pas forcément très bien, Messi est là pour faire la différence. Est-ce que ça, ce n'est pas un vrai motif de satisfaction?
Ça l'est sans doute pour le groupe et pour l'entraîneur de se dire, on n'est pas forcément dans un grand jour. Il est là, il va nous la faire, cette décision. Mais on est en phase de poule. Et puis surtout, on assiste toujours au même type de problème. C'est un Paris Saint-Germain qui encaisse toujours plus de buts. Le problème, il est là. Marquer des buts, ils y arrivent. Alors bon, des fois un petit peu avec l'aide de la VAR. Et puis des fois parce que t'as un joueur de classe, comment on va dire, galactique, hein, comme Messi. Mais ça sera pas toujours, ça va pas toujours les aider, ça va pas toujours les sauver. Messi ne peut pas être un sauveur tout le temps.
Oui.
Faut aussi qu'on arrête d'avoir ce PSG qui balbutie. Jean-Philippe l'a bien expliqué. Actuellement, c'est une équipe qui se cherche, qui est en rodage et qui encaisse beaucoup trop de buts. Ça passe là. Mais peut-être qu'au match prochain, on va avoir une surprise.
Attention, parce que l'équipe, elle n'est pas la formation toujours la même.
En
ça,
plus.
C'est un problème. Hein, même si ce sont des très bons joueurs, ce n'est pas facile à se comprendre,
mais non.
À se connaître, attention, et tu changes la formation presque
tous les
matchs.
Ça fait bricolage parfois, non, mais bon.
Que le PSG se cherche avec le recrutement incroyable qui a été fait cet été, y compris de conserver Mbappé, qui n'était pas évident.
C'était pas acté.
Bon, il faut mettre tout ça en... Donc ça, c'est normal, finalement, que ça prenne quelques semaines. Là où c'est un peu inquiétant, c'est qu'on ne voit pas vraiment d'amélioration franche, à part, encore une fois, le match contre City, qui était effectivement un grand match.
Donc
on a l'impression qu'ils peuvent monter leur niveau quand il faut, mais on n'a pas encore un fond de jeu sécuritaire,
t'as pas de certitude,
régulier, oui,
t'as
voilà,
pas de certitude.
qui va permettre au PSG de ne pas se faire battre en championnat par Rennes, par exemple, des choses comme ça.
Et de retomber derrière un gros match.
Et il n'y a pas un niveau... élevé en permanence pour l'instant.
Allez, on va jouer au jeu toujours dangereux des pronostics. Hein. On va vous mettre un petit peu en difficulté, messieurs. Il faut prendre des risques dans la vie. Est-ce que Lille va franchir le premier tour? Franck Simon, vous en
non.
pensez quoi?
Non.
Carlos Bianchi, non. Jean-Philippe Bouchard.
Je pense qu'ils peuvent. Ils sont quand même. Il y a de la marge. Il y a de la marge dans ce club. Donc je pense que. Enfin, je mettrais bien une petite pièce quand même. Parce que d'abord, le groupe est faible. Il suffit de deux victoires. S'il gagne deux matchs, il passe.
Et le PSG en tête de sa poule, Carlos Bianchi?
Et ça va être le match à City. À City pour moi.
Qui fera la différence, ouais. Franck Simon?
Je crains que ça ne suffise pas et que le Paris Saint-Germain soit deuxième de cette poule.
Se qualifie, mais... Je le crains aussi, ouais.
Ah, donc là, c'est unanimité. Ouais, allez, deux et puis un...
Et on aimerait vous entendre, Hugo.
Je me réserve. Non, moi, je ne peux absolument pas me mouiller. Moi, j'ai ma déontologie.
Vous n'avez pas votre maillot de bain, donc. Vous ne voulez pas vous mouiller.
Pour moi, voilà, exactement. En tout cas, ce qui est sûr, là, je peux vous l'assurer, on suivra les aventures du PSG et de Lille à l'occasion de la quatrième journée, le début des matchs retour de la phase de groupe. Leipzig, Paris Saint-Germain, Séville, Lille, en direct, en intégralité, sur la radio du monde.
Without further ado, I'll hand over to the FIFA president, who's going to say some opening remarks.
Hello, guten Tag, bonjour, buenos dias, buongiorno, salam aleikum.
The prestige.
Le prestige d'une compétition dépend de sa qualité, pas de sa fréquence. Parce que des personnes ont décidé il y a un siècle qu'une Coupe du Monde devait avoir lieu tous les 4 ans, nous n'aurions pas le droit de nous poser la question. Nous nous la posons.
La perception du temps dans la société moderne est de plus en plus rapide. La demande d'événements de grande importance est de plus en plus rapide.
Ça va ?
Ça va, monsieur le président.
Je n'entends pas. Ça va ?
Ça va !
Ça va dans ce studio? Un peu d'enthousiasme pour Gianni Infantino? Non, je vous sens plutôt médusé, effrayé par sa capacité à dire bonjour dans toutes les langues. Il n'y a pas de
effrayé.
Montage.
Est-ce que ça suffit? Être capable de dire bonjour et au revoir dans 15 langues, est-ce que ça suffit?
La menace de la Super League en Europe est pour l'instant écartée, mais une autre se fait de plus en plus pressante, concrète, et elle est mondiale. Gianni, il veut sa Coupe du Monde tous les 2 ans, un mondial tous les 4 ans, c'est de l'histoire ancienne. Franck Simon, c'est la lubie de gens qui sont morts depuis très longtemps, gens du siècle
mort,
dernier.
On est mort donc.
Israël, Venezuela, le président de la FIFA voyage pour vendre son idée, son projet. Dernièrement, Infantino a défendu cette Coupe du Monde tous les 2 ans, en tout cas cette idée de Coupe du Monde tous les 2 ans devant les dirigeants de l'UEFA. On sait qu'ils sont très hostiles, les dirigeants de la Confédération Européenne de Football.
C'est un euphémisme. Hein.
Mais il n'y a pas que l'Europe dans la vie du ballon rond, estime Gianni Infantino. Ce dernier est également ouvert à ce que les équipes ne soient pas autorisées à concourir lors d'éditions consécutives du Mondial. Idée saugrenue, émise par un dirigeant
n'importe
de la Fédération portugaise.
Quoi.
Alors, une citation
d'Infantino,
histoire de vous faire totalement exploser. Nous avons besoin de plus de participation et peut-être qu'il y a un moyen de le faire en ayant 2 Coupes du Monde, mais pas avec les mêmes équipes participantes, a déclaré Gianni Infantino. C'est quelque chose que les techniciens vont étudier, mais c'est certainement quelque chose que nous devons examiner. Je termine en vous disant que la FIFA va tenir un sommet le 20 décembre pour étudier la proposition d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. 211 fédérations nationales se composent la FIFA. Ces 211 fédérations membres seront réunies en visioconférence, dernière citation, pour discuter de l'avenir du football après avoir été informé en détail du processus de consultation en cours sur le sujet. C'était une longue introduction.
Oui, oui. Discuter et voter
pour
peut-être.
Pour ménager le suspense qui n'existe pas en fait. Je sens beaucoup d'hostilité sur tout ce que je viens de dire dans ce studio. Carlos Bianchi, la Coupe du Monde tous les 2 ans.
Non.
Avec peut-être même pas les mêmes équipes d'un mondial à l'autre.
Ça, je comprends pas comment pas les mêmes équipes. Ça, c'est, il faudrait que me
l'expliquiez. Alors, c'est pas un projet qui est concrètement sur la table,
écoute,
a priori.
La FIFA, vraiment, il doit avoir des dirigeants qui sont le temps pour. Là, ils se sont dit que peut-être que les pays, avant la Coupe du Monde, ils auront une semaine seulement.
Eh oui.
De préparation.
Alors, la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022 qui aura lieu en hiver,
écoute,
on rappelle.
T'as le temps pour penser et arranger les championnats qui démarrent une semaine avant, une semaine après, les dates comme il faut, pour les donner 15 jours, 3 semaines à la sélection de chaque pays pour préparer la Coupe du Monde. Et là, tu l'as dit, une semaine. Alors, je te dis la vérité, ils n'ont rien à penser. Et là, ils se sont dit, bon, on va faire la Coupe du Monde pendant 12 ans. Moi, je ne suis pas d'accord.
Eux se défendent d'avoir une idée comme ça sortie de nulle part. Eux, ils veulent que l'intérêt du public soit constant. Et ils pensent que les jeunes générations, et c'est ce qu'on a entendu dans la bouche d'Arsène Wenger tout à l'heure, les jeunes générations, tous les 4 ans, ils vont s'intéresser à. Ils vont avoir d'autres sources de préoccupations et ils vont se désintéresser
de ce. Ils vont s'occuper du football américain, peut-être.
Ce qui a été le.
Celui qui aime le football, il attend la Coupe du football pendant 4 ans avec une envie folle. Il prépare les voyages et peut-être avec sa famille.
Peut-être que les gamins d'aujourd'hui, ils ont des envies différentes. Peut-être est-ce recevable comme argument.
Attendez, avec votre histoire de gamin, Hugo, en fait, laissez-nous rire. Les gamins, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Ce sont plutôt les dirigeants les dirigeants du football mondial qui ont ça en tête et savoir. Et eux, ils pensent aux recettes et à l'argent que ça peut générer.
Et aux voix que ça va générer aussi.
Et aux voix aussi que ça va générer.
Les fédérations qui pourront le voter pour lui en se disant
parce qu'il y a une élection.
Ils s'étaient un petit peu comme à la UEFA quand ils ont mis tous les pays du monde à jouer la Coupe UEFA.
Moi, je suis puriste, donc je suis évidemment. Et je ne vote pas, je ne me présente que moi-même.
Et alors. Outre le côté absurde de faire une Coupe du Monde avec pas les mêmes équipes, donc
tu fais des éliminatoires, tu sais, ailleurs.
Mais faudrait me l'expliquer.
Il y a une chose qui me frappe, parce qu'on a eu la même chose avec la Super League et tout ça, on ne demande jamais leur avis aux joueurs. Jamais. Des dirigeants inventent des compétitions.
C'est la faute aux joueurs.
Non, mais ils inventent des compétitions.
Il y a d'anciens joueurs qui se prononcent.
Mais il y a un moment. Et ils vont faire comment les joueurs? Ils vont jouer tous les jours?
Il faudrait les demander. Il y a la Fédération internationale de football avec Philippe Piat.
Ouais, la FIFA Pro.
Et alors pourquoi ils ne demandent pas à eux?
Mais bien sûr.
S'ils sont d'accord, les joueurs de football.
Ils sont pas d'accord. La FIFA Pro, c'est le syndicat des joueurs
mondial des joueurs.
Arsène Wenger se défend en disant que dans son projet, qui n'est pas qu'une Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est même une refonte du calendrier international, il y aurait moins de matchs internationaux, justement.
Qu'on réforme les éliminatoires et le calendrier international,
ça se discute.
Ouais. Effectivement. Parce que quand on voit les éliminatoires, par confédération, il y a un certain nombre de matchs qui n'ont pas beaucoup de sens et il vaudrait mieux peut-être faire plus de poules ou des pré-poules ou quelque chose comme ça et pas faire jouer 100 marins face à l'Espagne, c'est pas raisonnable.
Autre argument d'Infantino et même de Wenger, un argument qu'on peut entendre ailleurs qu'en Europe, c'est justement que le football n'existe pas. Le ballon ne roule pas uniquement sur le vieux continent qui certes peut se prévaloir d'une domination sportive historique, mais on connaît bien le continent africain. Franck Simon, des pays pourraient profiter d'un mondial alors déjà élargi, ça s'est acté à 48 équipes. Et en plus, avoir plus de Coupes du Monde, donc plus de chances de participer.
Je ne sais pas comment, je m'interroge comme Carlos, c'est-à-dire, bien entendu, si tu élargis au nombre de participants, tu te dis la part du continent africain sera plus grande.
Tu élèves le niveau.
Mais voilà, il y a la
plus,
question de ça.
Y a des
et les joueurs, mais on en revient toujours
plus
à la question.
Plus de participants, tu baisses le niveau.
Tu fais comment pour les joueurs? Tu fais comment? Comment les joueurs vont digérer ça? Quand tu connais la difficulté pour se déplacer sur le continent africain,
Eric,
faire les éliminatoires.
Nous a raconté la semaine dernière, un joueur pour arriver à jouer Madagascar.
Eric Rabessandratana, donc le sélectionneur des Barrières de Madagascar. Oui.
Il a pris 4 avions pour arriver. Quand il est arrivé, il a dit non, tu ne joues pas. Il était mort, il était épuisé. Pendant 24 heures, il a voyagé.
Pour
attention, que voyager en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique, ce n'est pas la même chose.
Voilà.
Attention, l'Europe, c'est facile. Vous allez de Rome à Paris en une heure, de Londres à Munich en une heure. D'accord? Mais si vous voulez aller de Buenos Aires à Quito, vous mettez 15 heures. Avec toi, c'est calme. Et en plus, à Quito, vous arrivez à 3600 mètres d'altitude. Ah non, c'est pas facile. Hein.
N'hésitez pas si vous avez un voyage à organiser en Amérique du Sud.
C'est pas mal.
Carlos Bianchi.
L'agence Carlos Bianchi.
Connaît tous les horaires, toutes les distances.
Si on pense joueur, il faut l'éviter, les longs voyages.
Mais qu'il s'exprime. Il a raison, Jean-Philippe. Que les joueurs s'expriment. Bon sang de voix. Dites ce que vous avez dans les tripes. Vous savez bien que c'est un problème. C'est pas possible.
Est-ce que ça vous paraît inéluctable, tout simplement? Parce qu'on a l'impression que ça revient dans l'actualité. Pas tous les jours, mais toutes les semaines, une déclaration, une nouvelle, quelque chose
ça
comme ça
qui
donne l'impression qu'effectivement, il va vite et fort, il y va vite et fort dans ce projet, Gianni Infantino, Jean-Philippe Bouchard.
Parce qu'en fait, c'est de la géopolitique du football, c'est-à-dire que on a des intérêts comme par exemple ceux de la Super League qui avancent leur pion. Aussitôt, l'UEFA réagit en proposant d'autres compétitions. Donc la FIFA se positionne face à ça.
Ah,
et en fait, c'est une sorte de surenchère permanente.
C'est de la guerre froide. Hein.
Je pense qu'il n'en sortira rien de bon parce que. Il y a un moment, le football il repose sur deux jambes, historiquement, et c'est ce qui a fait sa force par rapport aux autres sports, c'est d'avoir un équilibre entre le football de club et le football d'équipe nationale. Les deux marchent ensemble, et tant qu'on préserve cet équilibre-là, le football reste attractif. Si on bascule dans l'un des deux devient inintéressant, que ce soit les équipes nationales parce qu'il y a trop de compétitions, n'importe quoi, avec des équipes qui sont pas les mêmes ou je sais pas quoi, ou que le football de club est tellement appauvri par une petite élite, ça marchera plus. Et souvenons-nous, il y a pas longtemps, du ridicule du tournoi olympique en football.
Ah oui.
Hein, ça rimait à quoi? Donc voilà, il faut préserver quand même les compétitions et la qualité des compétitions. Sinon, ça va devenir une bouillie informe et ce qui n'intéressera plus personne.
Pour rebondir sur ce que disait à l'instant Jean-Philippe, pensons à la Coupe d'Afrique des Nations qui continue de se dérouler tous les deux ans. Que deviendrait la Coupe d'Afrique des Nations avec une Coupe du Monde tous les deux ans? Donc on veut la tuer. On a déjà tué la Coupe des Confédérations.
Infantino s'était prononcé, je crois, début 2020 pour une CAN tous les 4 ans.
Mais Infantino...
C'est pas lui qui décide, techniquement.
Mais on peut s'interroger parce que lui s'interroge en fait sur le devenir d'une compétition qui appartient à la Confédération Africaine de Football, donc à 54 nations. Donc il va dicter, c'est ce qui se passe. Il est en train de dicter ce qu'il veut. Il y a quand même un souci. Que font les dirigeants? Qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi cette passivité? Moi, je continue de m'interroger. Pourquoi tuer cette Coupe d'Afrique des Nations qui reste jusqu'à présent? C'est la Coupe du Monde du football africain, de même que la Copa América, et c'est comme la Coupe du Monde de l'Amérique du Sud. Pourquoi on va les sacrifier sur l'autel de cette super Coupe du Monde tous les deux ans? Mais c'est n'importe quoi. Et les joueurs, toujours la question des joueurs. Vous avez envie de venir faire ça? Vous allez jouer quand? Vous allez vous reposer quand? Vous allez dormir dans des avions en permanence, descendre, jouer un match, repartir? Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, je suis désolé.
Bon.
C'est de l'argent. Ils veulent de l'argent.
Je crois qu'il y a un consensus sur ce.
Mais on n'est pas décideur, mon pauvre.
Autour de cette idée de la Coupe du Monde tous les deux ans, on va suivre évidemment l'évolution des choses. Ça avance, les pions.
Ça sera au Qatar, donc, qu'ils vont discuter.
Par la FIFA. On verra quel sera exactement le calendrier. En attendant, pour l'instant, la Coupe du Monde se tient bien toujours tous les 4 ans. La prochaine, ce sera à l'hiver 2022 au Qatar. On verra pour la suite. Allez, Radio Foot, la troisième mi-temps. Car justement, les distractions des footballeurs sur leur temps libre, il en est question dans la grande affaire qui secoue le football français depuis plusieurs années. L'affaire du chantage à la vidéo intime de Mathieu Valbuena. Le parquet, messieurs, a requis tout à l'heure 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende contre Karim Benzema. Oui, Karim Benzema, l'avant-centre du Real Madrid, accusé de complicité de tentative de chantage. Il fait partie des 5 prévenus poursuivis dans cette affaire donc de chantage à la vidéo intime de Mathieu Valbuena, son ancien coéquipier en équipe de France. Le procureur, ses déclarations, ce n'est pas n'importe qui. Karim Benzema, il est porteur d'une image, d'une notoriété de valeur qu'il est important de protéger. Décision attendue demain dans ce procès. Jean-Philippe Bouchard, est-ce que vous voulez commenter donc ce qui a été demandé par l'accusation, le parquet, en gros, c'est l'accusation qui demande donc 10 mois de prison avec sursis. Ça ne veut pas dire que Benzema, à l'heure actuelle, est condamné. Non, mais il y a... Ça ne veut pas dire surtout qu'il est coupable. Pour l'instant, il est toujours présumé innocent à l'heure où on se
Bien sûr, mais il y a deux points qui sont importants et qui sont survenus aujourd'hui. C'est que, un, le tribunal a annoncé qu'il rendrait sa décision demain soir, dans la foulée, en fait, des débats. Donc, ils l'ont annoncé à l'avance. C'est-à-dire que, parfois, au moment du rendu du jugement, eh ben, on met en délibéré pendant un certain temps. Là, il y aura, a priori, il y aura pas de délibéré. Donc ça laisse entendre qu'ils ont un certain nombre de certitudes. Et l'autre point qui est un indice important, c'est que les réquisitions, les peines demandées sont lourdes par rapport aux faits qui sont reprochés aux prévenus. Et donc ces deux points mis l'un à côté de l'autre laissent entendre qu'il y a quand même assez peu de doutes. Hein, sur les faits qui sont reprochés et qu'ils risquent d'encourir des peines assez lourdes, effectivement.
Bon, on va pas trop rentrer dans le fond du dossier, c'est complexe, il faudrait rappeler le factuel. Et puis, encore une fois, nous ne sommes pas un tribunal, nous, et ce n'est pas une émission de chronique judiciaire, simplement, Franck Simon. Karim Benzema, il marche sur l'eau sportivement, il était réhabilité en tant qu'avant-centre de l'équipe de France et il semblait presque bien parti pour le Ballon d'Or. J'utilise le passé parce que même s'il n'est pas encore condamné, même s'il n'est pas condamné tout court pour l'instant, alors on se parle, ça fait tâche. C'est 10 mois de prison demandé par le parquet.
Oui, c'est une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, comme vous disiez, c'est une menace, et surtout pour un homme qui, dans la plénitude en fait de sa vie de sportif de haut niveau, enfin, il nous régale à chacune de ses sorties. On en parlait quelques jours, nous étions tous ensemble autour des micros pour évoquer la Ligue des Nations et tout ce qu'il a pu apporter aux Bleus et ce qu'il fait avec le Real en tant que capitaine. Non, bon, c'est quand même très pesant, c'est très lourd comme atmosphère. Mais peut-être que au-delà de ça, il y a d'autres choses à voir et il faut s'interroger. On le disait avant cette émission, on en causait entre nous un petit peu hein, sur l'entourage, les dérives de certains entourages qui sont.
Interrogeons-nous. Vous avez parfaitement raison, car cette affaire, ce procès, ils auront mis Carlos Bianchi en exergue des zones d'ombre du monde du football. Il y a le terrain, les projecteurs, puis il y a ce qui se passe. Derrière, dans les couloirs du stade, dans les vestiaires, quand les footballeurs sont chez eux, et notamment ça met en exergue le problème de l'entourage des joueurs, des gens qui courent après l'argent, la gloire.
Le joueur de football, il est très naïf, même si on croit qu'on est très malin, on est très naïf. Il y a des gens qui s'approchent pour les intérêts à eux. Bon, tu peux avoir des amis de toute la vie. Mais à mesure qu'il passe ta vie, tu dois savoir bien si mérite de rester avec toi ou pas, de continuer dans le même chemin. Comprends ? Moi, je te dis la vérité.
Vous aviez eu ce genre de problème
votre
époque ?
Moi, pourquoi ? Parce que moi, j'arrivais à jouer en première division à 18 ans. À 15 ans, je jouais en troisième division, dans la réserve de Vélez. Et à 15 ans, j'ai laissé de voir mes amis du quartier. Parce que moi, je voulais être joueur de football professionnel. Et eux, vendredi, samedi, dimanche, ils sortaient. Et moi, je n'avais pas droit à sortir. Je devais gérer ma carrière professionnelle parce que ça allait être mon métier. Alors, tu les laisses tomber. Tes amis, tu ne peux pas continuer dans le même chemin.
Il
n'y
a personne qui t'a dit, tiens, Carlos, je vais t'aider à gérer l'argent. Tu marques tes buts. Moi, je vais t'aider.
Je n'ai jamais eu de représentant, moi.
D'accord.
Jamais eu de représentant.
Aujourd'hui, tout le monde est représentant d'image.
Joueur et comme entraîneur, je n'ai jamais eu un représentant. Et moi, je discutais toujours mon pognon. Ah. Et je te dis la vérité, j'ai choisi mes amis. Et quand j'avais 15 ans, je commençais à laisser de côté les amis des quartiers.
Là c'est les amis qui te choisissent, là,
sauf
maintenant.
Sauf que ne le prenez pas mal, Carlos, mais c'était une autre époque. Les salaires n'étaient pas les mêmes.
Oui.
Aujourd'hui,
Les vices, c'était pas les mêmes. Ah.
Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, un joueur peut être starifié très tôt, gagner de l'argent très tôt. Ça va attirer plus des gens mal intentionnés.
C'est une cible, le joueur.
C'est une situation encore plus difficile à gérer.
Tu sais, comme il y a plus d'argent, tu attires même tes familiers. La famille, ils s'approchent à toi aussi. Ta famille.
Après, il est bon que quand même, de temps en temps, la justice puisse rappeler que c'est pas parce qu'on est une superstar du foot qu'on est en toute impunité. Et c'est vrai qu'on voit des dérives. Alors encore une fois, Benzema n'est pas reconnu coupable. aujourd'hui. Il y aura peut-être aussi après derrière un appel. Enfin, ça va durer. Mais on a quand même des cas et beaucoup plus graves, hein, notamment dans des affaires de viol où il y a des footballeurs impliqués. On a l'impression qu'ils se croient tout permis, que tout est possible. Et ben non, 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 c'est pas parce qu'on est une superstar, qu'on a des amis du quartier d'il y a longtemps qu'on veut pas qu'on veut pas y conduire. Ben non, en fait, il faut aussi savoir respecter
marcher
les
dans
règles.
Les clous. Mmh. Oui.
Est-ce que le problème, et là je me tourne vers vous Carlos Bianchi, c'est que on ne fait pas suffisamment, je sais pas, au niveau des centres de formation, des instances du football, aussi une école de la vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on pousse pas les footballeurs à pas seulement être des bons sportifs, mais aussi des hommes accomplis, en les éduquant, en les les sensibilisant sur les problèmes de l'argent,
l'exemple,
de la notoriété.
L'exemple, il les montre tes parents. À moi, mes parents, ils m'ont montré l'exemple à suivre. L'honnêteté, la discipline.
Oui, mais c'est pas toujours simple. Le cadre familial, il peut être complexe. Encore une fois,
ça dépend aussi
beaucoup de données à gérer. L'argent,
ça dépend c'est l'intelligence que tu as aussi. Attention, c'est pas seulement les joueurs de football. Il y a plein de chanteurs, il y a plein d'artistes. Mmh. Qui gagnent beaucoup d'argent.
Après, c'est une minorité de joueurs hein, qui sont dans ce type de soucis.
Et il y a quand même une chose, pour savoir comment fonctionne la formation en France, dans les clubs, dans les centres de formation français, franchement, ils sont préparés. On les avertit. Alors, ça ne suffit pas toujours, mais ils sont sensibilisés à ça.
En pré-formation aussi, je crois.
On parlait aussi du syndicat des joueurs en France, UNFP, est aussi très présent pour prévenir les joueurs, notamment sur la gestion de leurs revenus, de leur fortune. Franchement, s'ils veulent, aujourd'hui, les joueurs professionnels ont les moyens de se faire aider par des gens fiables et bien intentionnés, et ils n'ont pas besoin d'aller chercher leurs amis du quartier de l'époque à qui ils feraient plus confiance.
Oui, parce que là, on va dire, dans cette affaire de chantage, on a l'ami du quartier, l'ami d'enfance donc pour Benzema, on a aussi ces concierges de luxe, c'est un peu ces hommes à tout faire qui gravitent autour des vestiaires de football. C'est vrai qu'on a un peu un instantané de la comédie humaine du football.
Je te le dis au départ, le joueur de football, il est des fois très naïf. Très naïf.
Mais parce qu'il est très jeune aussi.
Il y a des gens qui sont naïfs à 23, 24,
Carlos, le joueur de football, il a besoin d'un concierge ou de quelqu'un pour lui apprendre à allumer son téléphone et aller sur les réseaux sociaux, à lui installer des choses. Non. C'est aujourd'hui, en fait, c'est n'importe quoi. En fait.
Il y a plein de joueurs de football qui, quand ils s'arrêtent la carrière, ils se rendent compte là qu'il y a une autre vie. Et tu ne dois pas attendre de finir ta carrière pour savoir qu'il y a une autre vie après.
Se préparer. C'est pour ça que, comme Jean-Philippe évoquait notamment le rôle du syndicat des joueurs en France, le syndicat international, tout ça, ça compte. Le syndicat des entraîneurs, peut-être pour se préparer pendant ta carrière active.
Mais
faire autre
simple.
Chose de ta vie.
Quand on a quand on vient d'un quartier défavorisé, des origines modestes, il faut aussi s'habituer à un changement de dimension. On parlait de lui juste avant.
On pas trouvé des excuses.
À
Maradona. Par exemple, on voit bien que c'est
une famille que mon père, il avait un kiosque de journaux, il travaillait tous les lundis à dimanche, tous les jours. Et moi, ma famille, elle était très simple, très humble.
Quel joueur vient de
mon père,
de
il n'a jamais eu une voiture dans sa vie, il n'a jamais acheté sa voiture. Il a eu sa maison au bout de 25 ans, de marié.
L'éducation, Hugo. L'éducation.
L'éducation, mon père, c'était l'exemple. Lui, s'est réveillé tous les jours à 5 heures du matin. Tu sais qu'est-ce que c'est? 5 heures du matin, il rentrait à 13 heures, il partait à 17 heures, il rentrait à 22 heures pour vendre des journaux. Les journaux, tu les vends en centimes. Ce n'est pas comme en France, en Argentine. C'est toi qui es propriétaire du kiosque.
Et cette
ici,
humilité...
Ici, ce sont des employés de la mairie. Son employé.
Et cette humilité, elle est toujours là pour vous. Et pour nous, vous nous en faites profiter, Carlos Bianchi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Jean-Philippe Bouchard. Merci Franck Simon. Merci Laurent Serrano, Pierre-Olivier Guérin, David Finzel et Annie Gasnier qui revient demain pour le Café des Sports.
Session Lab.